Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et ce 11 novembre est le premier que nous passons sans aucun survivant européen de la Grande Guerre. Franck Ferrand contribue à sa manière à raviver la flamme. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. On se demandait il y a quelques années si cette solennité du 11 novembre allait survivre au dernier poilu. Eh bien tout ce que nous avons vu depuis hier et surtout ce matin tend à démontrer qu'en effet le 11 novembre est très vivace, c'est rassurant. La Grande Guerre reste un domaine éminemment sensible de la mémoire nationale. La plupart des Français en conservent un souvenir familial, comme une blessure qui serait impossible à vraiment cicatriser. Est-ce que pour autant, l'image que nous en conservons n'est pas biaisée? C'est ce que nous allons nous demander en compagnie de mon invité Jean Sévilla, qui est venu en direct malgré le caractère férié de la journée.
Oui, et vous avez choisi de nous parler en particulier des blessés de 14-18.
Et oui, paradoxalement, c'est un sujet relativement peu traité, cette condition affreuse faite aux blessés du conflit. Ça méritait, je pense qu'on s'y penche. Alors en ce jour désormais dédié à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France et qui ne... Eh bien, je dirais qu'on ne doit pas oublier tous ceux qui ont souffert pour elle.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Des témoignages sur l'apocalypse de 14-18, il en existe des milliers. L'horreur, l'angoisse quotidienne inhumaine des tranchées, des assauts, des gazages, des pluies d'obus, la solidarité mais aussi la vilenie, l'héroïsme comme la lâcheté, tout a été décrit, raconté, dénoncé ou sublimé par les moins fermés, par les moins tétanisés de ces anciens combattants qui, pendant des générations, ont préféré, disons-le, se taire. J'ai eu l'occasion, dans mes tout débuts dans le métier d'historien, de rencontrer un grand nombre de ces anciens combattants de la Grande Guerre. Ils parlaient peu, vous savez, mais leurs souvenirs, très souvent, étaient comme... On pourrait dire qu'ils étaient... On avait l'impression qu'ils revivaient ce qu'ils avaient vécu si longtemps auparavant. Des souvenirs qui, néanmoins, étaient souvent entrecoupés de longs silences. Alors que revoyaient-ils ces anciens combattants en plissant un peu les yeux? Quelle douleur, quelle souffrance de l'âme se ravivait-elle à l'évocation de ce qui, pour la plupart d'entre eux, s'apparentait à une autre vie? Nous allons essayer de cerner ça d'un peu plus près aujourd'hui. Parmi les témoignages qui existent, j'en ai choisi un pour cette émission du 11 novembre. Ce n'est pas moi qui l'ai recueilli, il s'agit d'une relation personnelle, publiée il y a plus de 50 ans dans la revue Histoire pour tous que dirigeait Alain Decaux. Une relation signée du docteur Luc Labi et qui faisait partie de ces innombrables médecins militaires du conflit. Un témoignage qui m'a paru présenter le grand mérite de se pencher sur le sort relativement peu connu, je le disais il y a un instant, des blessés. Le médecin auxiliaire Labi est attaché à la 56e division, régiment 294, un régiment qui au printemps 1916 est affecté en Champagne où il s'agit de créer, de l'aveu même du commandement, un abcès de fixation. Abcès de fixation, voilà une expression qui n'augure rien de bon. Le général Gouraud vient en personne passer le 294 en revue. Étant en queue du bataillon, explique l'ami, j'assiste à toute la revue avant de défiler moi-même. Je suis frappé par les regards des poilus, qui faisant un tête gauche, dévisagent le général, paraissant lui dire qu'ils acceptent le sacrifice qu'il leur demande et qu'il peut compter sur eux. Les officiers d'eux-mêmes font au passage un grand salut du sabre qui semble dire lui aussi qu'ils vont mourir sans regret puisque le pays exige d'eux ce suprême don de leur vie. Je vous demande de bien noter ces remarques du docteur Lamy parce que, et la manière dont elles sont formulées, parce qu'elles seront le point de départ de la discussion que nous allons avoir dans un instant avec Jean Sévilla. Le général Gouraud, raconte le médecin auxiliaire Lamy, dès le début de la revue s'est découvert, chose extrêmement rare au cours d'un défilé. Et le képi, pendant au bout de sa seule main, il faut savoir que Gouraud avait été amputé du bras droit au moment des Dardanelles, donc ce képi, au bout de sa seule main, raide comme un piquet, il regarde passer devant lui des centaines et des centaines d'hommes qu'il ne verra plus jamais. Je vous fais grâce de la première salve d'artillerie allemande qui fait pleuvoir sur le boyau où s'entasse le régiment une véritable pluie de gros obus de tout calibre, bruit d'enfer, violence des déflagrations qui mettent les hommes à genoux, fumée épaisse qui enflamme les gorges, une avalanche de fer, de feu et de suie. On demande que l'assaut prévu soit repoussé d'au moins une heure, parce qu'il y a un tel déluge de feu que sortir sous une telle mitraille ne ressemble à rien. La demande est transmise à l'état-major. Mais avant qu'elle ne parvienne jusqu'au colonel qui dirige les opérations du secteur, les fils de transmission sont coupés par un obus. Alors quoi faire dans ce cas-là? Ben on envoie ce qu'on appelait un coureur, c'est-à-dire un messager qui va devoir rejoindre ventre à terre le PC du commandant, puis rapporter de la même façon l'ordre de décaler la sortie. Seulement, le temps passe, l'heure tourne, et le moment prévu pour l'assaut va sonner. Ça y est, l'heure sonne, il est 13h, il n'y a pas eu de réponse, le coureur n'a pas eu le temps de rentrer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on y va. Sous le feu de l'artillerie, les 22e, 24e, 17e et 18e compagnies donnent l'assaut. Concrètement, ça veut dire qu'elles sortent de la tranchée et courent se faire faucher par les feux croisés des deux artilleries ennemies. Là, c'est le chaos absolu, c'est la violence pure. C'est une tuerie sans nom. Je cède la parole au médecin auxiliaire Lamy. Que de vilaines blessures je vois passer dans mon petit poste de secours. Il déborde de blessés car ses dimensions sont vraiment trop exiguës et ne comportent aucun aménagement. Le bombardement continue à faire rage et les obus se croisent au ras du boyau avec des hurlements déchirants. Le duel d'artillerie qui s'est engagé fait un roulement de tonnerre et le sol tremble de plus en plus et sans discontinuer. Des mineurs vers fer tombent tout autour. Il devient impossible de s'entendre. Nous renonçons presque à parler. Il faut pousser des clameurs invraisemblables pour se faire comprendre entre nous. Nous sommes vite embouteillés et je ne sais plus où mettre mes blessés. Alors je suis obligé de répartir tous ces malheureux trempés de sang et dont beaucoup crient ou pleurent dans les petits abris, effondrés pour la plupart et encore plus exigus et moins profonds que le nôtre, creusés dans les parois du boyau. Je vais de l'un à l'autre, à quatre pattes et à plat ventre, faire des piqûres de morphine et d'huile camphrée, car à partir de maintenant, à chaque nouveau blessé, Duez et moi sommes obligés de sortir en plein bled. Le bled, c'est-à-dire la zone ouverte non garantie des combats, nous sommes obligés de sortir à chaque fois. Ces miracles que nous ne soyons pas volatilisés. Et comme si ça ne suffisait pas, à ce moment-là retentit une première explosion, déflagration absolument terrible, puis une deuxième explosion. La situation, nous dit Labi, nous apparaît alors dans toute son horreur. Nous sommes dans l'obscurité la plus absolue. Notre lampe à acétylène a été soufflée et nous n'arrivons pas à trouver dans le noir la lampe électrique que nous avions déposée par précaution sur une caisse à cartouches qui se trouvait dans notre PS, c'est-à-dire notre poste de sécurité, avant notre arrivée. Quelques secondes d'affolement dans cette nuit opaque, nous échangeons quelques brèves phrases. Alors là, on les entend tous parler. Hein. Qui est touché? Quelqu'un a-t-il des allumettes? Un briquet? Où sont la pelle et la pioche? Nous sommes, poursuit Labi, à moitié asphyxiés par la déflagration et nos respirations se sont saccadées. Enfin, à tâtons, nous découvrons pelle et pioche à moitié recouvertes de terre et nous partageons les outils. Et allez, il faut y aller. Les malheureux poilus blessés, ventres ouverts, nous dit-il, bras déchiquetés, crâne brisé, baignant dans le sang dont l'odeur mêlée au reste nous prend à la gorge, ne peuvent que nous encourager en nous suppliant de les dégager. Avec quelle ardeur nous pelletons? Avec quelle ardeur nous piochons? Ces quelques minutes nous paraissent un siècle. Nous sommes trempés par la sueur et nos oreilles bourdonnent. Enfin, un petit rayon de jour filtrant par un trou gros comme un poing vient percer notre obscurité. Nous agrandissons fébrilement cette petite fenêtre qui pour nous représente toute la vie. Et enfin, la lumière revient dans notre chaos. Ça y est, ils vont pouvoir de nouveau s'organiser, reprendre le traitement des blessés. Et la troisième détonation encore plus extraordinaire et qui va les obliger pendant une heure entière à creuser de nouveau et à essayer de retrouver la lumière. Enfin, raconte Labi, les doigts en sang, le corps meurtri et les vêtements déchirés, nous arrivons à revivre pour la deuxième fois le miracle qui tout à l'heure a failli nous sauver. La lumière du jour jaillit et, ivres de joie, nous traînons dehors sous un déluge de fer et de feu nos malheureux blessés qui préfèrent tout risquer plutôt que de mourir ensevelis. Oui seulement, il y a des fois où le remède est encore pire que le mal.
Instant, un extrait de la bande originale du film Un long dimanche de fiançailles, composé par Angelo Badalamenti.
Donc le médecin auxiliaire Labi a sorti les malades, enfin les blessés comme il a pu, sauf qu'ils sont maintenant tous sous la mitraille. Alors qu'ayant terminé son pansement à un blessé du bras, je m'efforce de lui mettre en écharpe ce bras. Un éclat d'obus arrive, dit-il, que le pauvre bougre reçoit en pleine figure. Le caporal Picard a le bas-ventre complètement arraché en bouillie. Il fait preuve d'un courage extraordinaire. Il me dit qu'il a deux enfants et que s'il survit, il sera encore bien heureux. Moi, je sais qu'il est perdu. Les blessés se succèdent, nous raconte ce médecin, à une telle cadence que je suis obligé de faire vite, très vite, par pitié pour ceux qui attendent. Je fais asseoir l'un d'eux devant moi sur la caisse à cartouches qui n'est pas encore brisée, c'est le caporal Carpentier. Il est soutenu sous les bras par un brancardier, mais il se traîne si péniblement, sa tête recouverte d'un pansement individuel roulant d'une épaule sur l'autre, que je le secoue un peu en lui disant qu'il faut qu'il y mette un peu du sien. Je déroule la bande mise hâtivement autour de son crâne et quand j'ai terminé, j'ai l'affreuse surprise de voir glisser dans ma main gauche toute la moitié droite de son cerveau. Et ce malheureux dont je viens de recevoir dans le creux de la main, isolé par une compresse de gaz, un hémisphère cérébral tout entier, cause encore avec moi distinctement et me répète « Oh, monsieur le major, comme je voudrais dormir !»« Oui, va, mon vieux, lui dis-je, il vaut mieux que tu dormes » et je lui fais une piqûre de morphine. Il s'endort, il ne se réveillera jamais. Au bout de 2 heures, tout est fini. » Alors, Labi, bien entendu, nous parle de tous ceux qui les aident, notamment ces agents de liaison extraordinaires. Il en voit un qui est projeté en l'air à quelques mètres de lui par l'explosion d'un obus qui ne l'a pas blessé, mais lui arrache son pli. Il portait une lettre. Hein. Alors, nous dit-il, il se remet sur ses pieds, court après son papier, le ramasse et me crie en riant, avec un bel accent marseillais, « T'es, c'est moins drôle que de faire la barbe !» parce qu'il était barbier dans le civil. Mais brancardiers aussi sont merveilleux, dit il est infatigable. Espérons que ce soir, tous mes blessés seront enfin évacués. Mais il y a encore de l'ouvrage, il y en a plein les cagnas, ou plutôt ce qui reste. Je les parcours, je revois tous mes gars dont beaucoup me connaissent et m'appellent par mon nom. Je consolide des pansements, je desserre avec prudence quelques garrots, refais quelques piqûres d'huile camphrée pour soutenir les plus défaillants. Enfin, c'est fini, le soir à minuit, le travail est terminé. Pas un blessé ne reste sur le terrain. Je peux partir. Je rassemble ma poignée de brancardiers survivants et nous quittons ce bled où tant des nôtres demeureront à jamais. Après cette émotion du témoignage brut de ce médecin militaire, j'aimerais que nous revenions plus généralement sur la vision que nous avons maintenant de la Grande Guerre tant de décennies plus tard. Est-ce que cette vision n'est pas biaisée? Est-ce que nous avons la bonne façon d'envisager cette guerre? C'est ce que nous allons essayer de voir en compagnie de Jean Sévilla.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et au cœur de l'histoire qui se poursuit avec la partie magazine, tout de suite aujourd'hui, Franck, vous recevez Jean Sévilla, qui est journaliste, historien et auteur de Historiquement Incorrect, paru en octobre chez Fayard.
Bonjour Jean Sévilla, merci d'être avec nous un 11 novembre. Vous consacrez l'un des chapitres de cet ouvrage qui est tout à fait dans la lignée de Historiquement Correct, du terrorisme intellectuel, etc., qui sont des charges, on peut dire, contre une certaine dérive, selon vous, de la façon dont on enseigne l'histoire ou dont on la considère, dont on considère d'une façon plus générale les grands sujets nationaux du reste. Et dans ce livre, vous nous dites que la façon que nous avons de regarder la Première Guerre mondiale, depuis quelques années, pour ne pas dire même depuis quelques décennies, a changé et était pour le moins étrange. Alors ce qui est intéressant, et nous allons venir à ce débat dans un instant, ce qui est intéressant c'est que nous vivons la première année sans aucun survivant européen de la Première Guerre mondiale. Donc on peut dire que d'une mémoire encore vive, nous sommes passés, depuis ce matin si je puis dire, à l'histoire. Sauf qu'il est question, et le président de la République l'a annoncé dans son discours ce matin sous l'Arc de Triomphe, il est question désormais que le 11 novembre soit consacré à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la France et pas seulement aux soldats de la Grande Guerre et aux énormes sacrifices consentis pendant la Grande Guerre. J'aimerais que nous revenions un instant sur un événement dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas passé inaperçu. Certains d'entre nous le craignaient et ça n'a pas été le cas du tout. Ça se passait au printemps 2008 et c'était la mort du dernier poilu français. C'était la mort de Lazare Ponticelli. Voilà ce qu'on en disait sur l'antenne d'Europe 1.
Lazare Ponticelli était depuis longtemps un fidèle des cérémonies du 11 novembre dans sa commune du Kremlin-Bicêtre en banlieue parisienne. Il ne courait pas après la publicité, il avait fini par accepter en effet l'idée d'un hommage national, mais sans tapage, disait-il, et au nom de tous ceux qui sont morts. L'idée fixe de Lazare Ponticelli, c'était le devoir de mémoire. Écoutez ce qu'il disait, c'était le 11 novembre dernier.
J'ai fait un chemin dans l'étranger. J'ai dit mes camarades, celui qui vit vient nous voir.
Celui qui survit viendra nous voir. C'était le serment que Lazare Ponticelli avait fait dans les tranchées à ses camarades soldats. Serment qu'il a respecté toute sa vie. Il était arrivé à Paris à l'âge de 9 ans en provenance de son Italie natale et s'était engagé à l'été 14 au régiment de marche étranger avec son frère. Céleste sera d'ailleurs blessé au chemin des dames et c'est son frère Lazare qui le sauve. Lazare a souvent endossé le rôle de brancardier durant la Première Guerre mondiale, fonction redoutée parce que très dangereuse. Et à Argonne, à Soissons, à Verdun, partout, il a rampé entre les lignes, entre les tranchées françaises et allemandes. Il a sauvé des vies, souvent, parfois allemandes d'ailleurs. Fin 1915 et contre son gré, la France le met à disposition de l'armée italienne. Et là encore, le simple soldat mènera des actions d'éclat. Il est très sérieusement blessé, d'ailleurs, par un obus autrichien. Blessé à la tête, il est opéré sans anesthésie, à la dure, et tenu par 4 de ses frères soldats. Il s'en sort de justesse. Il faut dire que Lazare Ponticelli avait peut-être une botte, un truc, une idée qui l'a aidé à survivre pendant 4 ans et vivre pendant 110 ans.
Moi, je n'ai jamais eu peur de mourir. Je crois que mourir pour moi, c'était quelque chose de... terminé.
Lazare Ponticelli, l'agnostique, qui refusait donc l'idée de la mort et qui disait « Avec le courage, on arrive toujours à ses fins ». Après la guerre, il n'a pas perdu de temps, il est revenu à Paris, Lazare Ponticelli, et il a créé ce qui allait devenir l'une des plus importantes sociétés de levage en France. Ponticelli Frères, aujourd'hui, salarie 2000 personnes dans le pays.
Très émouvante cette voix d'un monsieur de 110 ans, survivant de la Grande Guerre, au micro de Jean-Carl Lambert. Je disais tout à l'heure que j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreux anciens combattants de 14-18, mais j'ai un souvenir plus fort, paradoxalement, parce que j'étais tout simplement plus jeune. C'était lorsque on était au collège et au lycée, les anciens combattants de 14-18 qui venaient nous raconter la Grande Guerre. Et je me rappelle que ces jours-là, dans la classe, on aurait entendu tomber une épingle. On était très impressionnés, bien entendu. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de témoins, Jean Sévillon, vous paraît un élément de perte de mémoire? Est-ce que le fait qu'on n'ait plus de témoins qui aient vécu les événements risque de rendre cette guerre un peu abstraite?
Les derniers témoins, de toute façon, ces dernières années étaient vraiment extrêmement âgés.
Très,
donc
trop
ça
âgé,
fait
oui.
Longtemps qu'on ne se fonde plus sur le témoignage vraiment des derniers combattants qui étaient vraiment des très vieux messieurs pour comprendre cette guerre. Mais c'est peut-être un des clés, en tout cas, de la fascination qu'ils exerçaient est un élément qui doit nous interroger. Pourquoi ces ultimes survivants fascinaient-ils? Précisément parce que je crois que la Grande Guerre représente quelque chose de qui est à la fois très mystérieux parce que c'est un autre univers et en même temps qui est proche, vous l'avez dit au début de votre émission, parce que tous les Français ont des ancêtres qui ont fait la Grande Guerre.
Bien sûr. Alors, ce matin, donc, le président de la République a prononcé un discours. Je tiens à mettre un extrait de ce discours qui est en résonance directe avec ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec le sort tellement atroce de ces blessés, coincés dans les boyaux à demi-effondrés de ces batailles de 14-18. Je tiens à mettre cet extrait pour bien préciser à tous nos auditeurs que si nous évoquons aujourd'hui un certain nombre de biais dans la façon d'envisager la Première Guerre mondiale, il ne s'agit en rien de nier l'ampleur et la quantité invraisemblable de souffrances physiques et morales qui ont pu être endurées pendant ces années de la Grande Guerre. On écoute le président de la République.
Aucun mot ne peut rendre compte de ce que vécurent ces hommes, entassés dans des boyaux de boue sanglante, à demi inondés, jonchés de cadavres, attendant la peur au ventre sous les obus, l'ordre de monter à l'assaut. Le miracle fut que chacun se battit jusqu'à l'extrême limite de ses forces et nul n'avait songé qu'elle pourrait être repoussée aussi loin. Tous furent des héros, même ceux qui, après avoir affronté avec un courage inouï les plus terribles épreuves, refusèrent un jour d'avancer parce qu'ils n'en pouvaient plus. D'un côté de la ligne de front comme de l'autre, les lettres des soldats à leurs familles expriment au milieu de la douleur et de l'angoisse les mêmes sentiments d'honneur et de devoir. Meurtris, blessés, saignés à blanc, amputés pour longtemps de ses forces les plus vives, la France éprouva dans cette horreur le sentiment de son unité avec une intensité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant.
Le président de la République évoquait ces lettres, ces courriers des soldats à leur famille. Certaines ont été publiées. Ça a été le succès absolument phénoménal de Paroles de Poilu de notre ami Jean-Pierre Guénaud. Est-ce qu'on peut dire, Jean Sévilla, que ces Paroles de Poilu ont joué un rôle dans la reprise de conscience d'une certaine violence de la Première Guerre mondiale ?
Je crois que c'est le succès éditorial de ce livre qui traduit cette prise de conscience. Elle se manifeste...
Oui, qui de la poule ou de l'œuf, c'est vrai.
Oui, voilà. Elle se manifeste depuis le début des années 90. En effet, il y a un réveil de l'intérêt pour la Grande Guerre.
Alors, ce réveil de l'intérêt pour la Grande Guerre nous amène à notre débat dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en ce 11 novembre, Franck Ferrand nous parle bien entendu de la Grande Guerre. Jusqu'à 14h, il est en compagnie du journaliste et historien Jean Sévilla.
Jean Sévilla qui depuis 30 ans maintenant est un des piliers du Figaro magazine, évidemment. Il se trouve que je suis un très grand lecteur de Sébastien Chaprizot, un grand admirateur, et que je considère Un long dimanche de fiançailles comme un des meilleurs romans de ce dernier demi-siècle en France. Ce roman néanmoins, et le film qui en a été tiré, avec un certain nombre d'autres films, ont tendance à porter, à décaler en quelque sorte l'attention du public, à déporter l'attention vers les mutilés volontaires, les fusillés pour l'exemple, les mutineries de 1917. Un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de faits historiques que vous ne contestez pas, Jean Sévilla, mais dont vous contestez l'importance prise dans l'historiographie.
Ce sont des phénomènes réels, les fraternisations.
Oui, les fraternisations, le film Joyeux Noël,
voilà,
par exemple.
Les refus d'obéissance, ce sont des phénomènes avérés, mais ils sont marginaux dans l'histoire de la Grande Guerre. Aujourd'hui, on en fait un peu un roman, et le cinéma, la bande dessinée s'y mettent. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Grande Guerre est un monde tellement mystérieux.
Quand vous parlez de la bande dessinée, on pense à Tardy, évidemment, voilà. Mais à tous ceux qui ont suivi aussi.
Voilà. Un monde tellement mystérieux, tellement différent d'une autre, qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et puisque c'est incompréhensible, au fond, on lui prête notre figure, nos mentalités, nos critères.
La Grande Guerre est devenue impensable, ou dites-vous, incompréhensible ?
Elle est incompréhensible parce que nous sommes dans une société où le patriotisme n'est pas une vertu particulièrement enseignée. Comment comprendre donc que des hommes se soient battus au nom de la patrie ? Nous sommes dans une société du confort matériel. Comment comprendre que des hommes aient pu endurer ce qu'ils ont enduré sur un plan physique ? Nous sommes dans un monde qui est un monde européen. Comment comprendre que les Français aient tellement haï les Boches, comme ils les appelaient à l'époque, et sachant que la haine était la même dans l'autre camp.
Et ça, vous le montrez remarquablement dans le chapitre que vous consacrez donc à la Grande Guerre, vous appelez ça « Nous ne comprenons plus la Grande Guerre ». Vous nous dites qu'en fait, tout s'explique par la haine nationaliste recuite qui existait de part et d'autre, bien entendu. C'est-à-dire que pour une immense majorité, une quasi-totalité des combattants, il s'agissait bien de se battre jusqu'au bout contre un ennemi irréductible. C'est une notion évidemment qu'avec la construction européenne, avec le pacifisme ambiant, etc., on a fini par perdre de vue, mais qui était chevillée au cœur des combattants de 14-18.
Le patriotisme qui était enseigné en France, mais aussi de l'autre côté du Rhin, avait été fortement intériorisé et n'était nullement contesté. Et s'il y a eu en effet un courant plutôt pacifiste, plutôt antimilitariste en France, dans l'immédiate après-guerre, d'avant-guerre, pardonnez-moi, 1912-1913, et bien dès 1914, dès la mobilisation, on s'aperçoit que ce courant se dissout et qu'au fond, tout le monde part obéir à la mobilisation et tous les combattants se lancent dans cette guerre. C'est un grand mystère au regard de nos critères à nous, mais c'est vrai que les combattants ont consenti à cette guerre.
Tout à l'heure, sous la plume de ce médecin auxiliaire, du docteur Labie, on voyait défiler tout un régiment devant le général Gouraud, et nous disait Labie, ils sont tous presque fiers d'aller se sacrifier pour la patrie.
Oui, et ils faisaient leur devoir, c'était la formule de l'époque, on fait son devoir. Et tous les journaux de tranchées qu'on sort aujourd'hui des greniers, beaucoup de Français découvrent des lettres de leurs ancêtres.
Des cartes, etc., bien sûr.
Et on s'aperçoit en fait que la volonté de combattre était profondément intégrée. On ne voulait ne pas lâcher. Il fallait tenir jusqu'au bout, il fallait faire son devoir, c'était une notion commune. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de droit plus que de devoir, et bien cette notion est assez incompréhensible.
Il y avait naturellement des pacifistes, y compris jusque dans la classe politique, mais pour l'immense majorité des révoltés et des mutinés de 1917, c'était surtout des gens qui étaient là de sacrifices qui devenaient absurdes, car on n'avait plus aucune lisibilité du conflit.
Aujourd'hui, on fait toute une utilisation un peu idéologique de ces mouvements de désobéissance. On les appelle des mutins, qui sont mouvements qui sont survenus au printemps 1917. En réalité, ils sont survenus dans un contexte bien précis, déterminé, bien étudié par les historiens. C'est l'échec de l'offensive Nivelle, qui avait été une offensive très coûteuse en hommes. Et il y a eu à la suite de cela des mouvements, en effet, de désobéissance. Mais ces mouvements de désobéissance consistaient à dire les gens ne voulaient plus monter à l'assaut pour se faire massacrer inutilement. Mais ils ne voulaient absolument pas déserter les lignes. Et si les Allemands eux-mêmes étaient partis à l'offensive, eh bien, ils auraient tenu bon.
Vous citez abondamment Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker, enfin un certain nombre d'historiens qui justement remettent un peu les pendules à l'heure, si je puis dire. Cette remise à l'heure ne passe pas inaperçue et ça crée un véritable divorce au sein même de l'université française.
Oui, il y a deux courants, et c'est vrai, chez les spécialistes de la Grande Guerre, il y a le courant du consentement, ceux qui montrent en quoi cette guerre a été acceptée par les combattants, et puis il y a un courant plus contestataire qui met en valeur les phénomènes de soit de pacifisme, soit de rébellion, soit de désobéissance. Or, personnellement, j'ai bien étudié la question, j'ai lu les deux parties, on s'aperçoit que quand on grossit en réalité des phénomènes qui sont avérés, encore une fois, il ne s'agit pas de les nier, mais ce sont des phénomènes minoritaires, marginaux. Or, il y a tout un courant d'historiens aujourd'hui qui les mettent en valeur. Mais pourquoi ? Parce que cela entre en résonance avec les mentalités d'aujourd'hui. Mais l'histoire ne se fait pas avec les mentalités d'aujourd'hui, elle se fait avec la connaissance de la façon dont les gens pensaient autrefois.
C'est un grave travers d'un certain nombre d'historiens que de pratiquer ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire l'étude du passé avec tout ce que nous savons depuis. Faute de pénétrer cette époque, écrivez-vous, on lui prête les caractères et les mentalités de la nôtre. En 1998, la commémoration du 80e anniversaire de l'armistice laisse l'historien interdit. La tonalité générale des cérémonies dépeint les combattants de la Grande Guerre comme des martyrs de la contrainte sociale, foin du sacrifice patriotique, place aux droits de l'homme.
C'est cette vision très individualiste que nous avons aujourd'hui. Nous sommes une société des droits, une société contractuelle, consensuelle. On voudrait donc, on n'arrive pas à comprendre comment des millions d'hommes ont accepté pendant 4 ans de souffrir comme cela. On leur prête une mentalité un petit peu de mai 68, ce qui ne me paraît pas opportun.
Un autre biais, et je bats ma coulpe, moi aussi, car nous faisons tous partie d'un certain mouvement, si je puis dire, c'est qu'on a tendance à envisager la Première Guerre mondiale par le petit bout de la lorgnette, en grossissant considérablement des cas particuliers, avec les souffrances indicibles qu'ont subi ces gens-là, en oubliant peut-être les aspects plus généraux, politique, géostratégique du conflit. Si vous voulez, et grâce à vous, Jean Sévilla, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Madame Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
La Madelon de... Alors,
mais c'est vous notre Madelon, Fatima.
Je posais la question, est-ce que l'on dit Bach ou Bach? Puisque je vous entendais
chanter... Ah, qui chante, c'est Bach, oui, c'était voilà, un comique troupier des années de l'entre-deux-guerres.
Voilà, une chanson très populaire. D'ailleurs, 11 novembre oblige, vous nous parlez aujourd'hui de la Grande Guerre, Franck Ferrand.
Voilà, et Hubert nous demande si on a déjà pensé à faire un remake du film Les Croix de Bois. Je pense que pour la célébration des 100 ans de la Grande Guerre, ce serait une bonne idée, nous dit-il. C'est vrai qu'on s'achemine à très brève échéance, maintenant dans 2 ans, 3 ans, on s'achemine vers le siècle, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'à cette occasion, Jean Sévilla, il y a une chance pour qu'on en revienne à une vision un peu plus générale du conflit et un peu moins centrée sur ce dont on parlait, les mutins, les fusillés, etc.
Il faudrait, en effet, je pense que dans l'intérêt de l'Europe, d'abord, c'est de connaître le passé de l'Europe. Et aujourd'hui, on a un regard plus équilibré sur les causes et conséquences de cette guerre. En France, autrefois, on jugeait que toute la faute était du côté des Allemands. Les Allemands jugeaient que toute la faute était du côté des Français. Aujourd'hui, les historiens ont beaucoup travaillé sur la question. Il y a une grande responsabilité de l'Allemagne, mais aucun pays n'a été absent, innocent dans le déclenchement de cette conflagration mondiale.
Alors j'avais prévu de parler des carnets de guerre, enfin du carnet de guerre en l'occurrence de Louis Pergaud, qui est publié dans la collection Le Petit Mercure, au Mercure de France. C'est vraiment un journal au jour le jour par l'auteur de La Guerre des Boutons. J'avais prévu de parler du livre d'un très grand historien suédois, Peter Englund, qui s'appelle La beauté et la douleur des combats, une nouvelle histoire de la Première Guerre mondiale. Ce monsieur a choisi 20 personnes, 20 combattants de la Première Guerre mondiale qui appartiennent à tous les camps, à tous les pays, etc. Et alors sur les 20, 3 sont tués, 2 vont tomber en captivité, 2 sont fêtés en héros, 2 finiront réduits à l'état d'épave, nous dit-il. Plusieurs accueillent favorablement la guerre quand elle éclate mais apprennent à la détester. Quelques-uns la détestent dès le premier jour, l'un d'eux l'aime du début à la fin, un autre finira littéralement fou et échouera dans un hôpital psychiatrique, un autre encore n'entendra pas tirer un seul coup de feu, et ainsi de suite dans une perpétuelle oscillation entre une fascination pour l'étrange beauté des combats et une profonde douleur. Mais encore une fois, on est dans ce que, lorsque j'étais étudiant en histoire, on appelait la micro-histoire, c'est-à-dire l'appréhension d'un phénomène général par des cas particuliers et en entrant dans le détail de situations très personnelles. C'est bien sûr très fort, mais ça agit sur l'émotion. Mais est-ce qu'on ne peut pas opposer une émotion mémorielle à une rationalité historique, en quelque sorte? Est-ce qu'il ne serait pas bien de temps en temps de revenir à l'histoire et de se détacher un peu le nez des détails et des témoignages pour entrer dans la vision générale de ce conflit, Jean Sévilla?
La Grande Guerre en 1914 n'a pas éclaté uniquement parce que les gens se haïssaient. Il y avait derrière des intérêts économiques, nationaux, très lourds, qui s'étaient... L'Europe avait noué un système d'alliance qui s'enclenchera après l'assassinat de François Ferdinand à l'été 1914. Mais il y avait derrière, en effet, il y avait de lourdes visions politiques et économiques qui opposaient des nations européennes, qui étaient concurrentes par ailleurs dans le monde colonial. Cette dimension-là ne doit pas être occultée, parce qu'aujourd'hui on ne voit le monde qu'à travers la souffrance de ces hommes.
Et ce qu'on oublie peut-être, et c'est fondamental sur un plan historique, et c'est le moment ou jamais de le dire, c'est que cette Première Guerre mondiale marque véritablement la fin d'un monde. La fin d'un monde dominé par l'Europe notamment. Il ne faut pas oublier que si l'on fait la comparaison entre la situation de l'Europe avant 1914 et après 1918, on se rend compte que tout a changé, et notamment les 3 grands empires centraux qui tenaient comme un pôle de stabilité le cœur de l'Europe. Évidemment la Russie des Tsars, l'empire allemand du Kaiser, et puis l'empire austro-hongrois qui était une mosaïque d'États mais qui tous tenaient ensemble, dans une conception d'ailleurs assez peu nationaliste des choses. Ces 3 grands empires se sont littéralement effondrés. Et puis il y a eu une révolution bolchevique en Russie, et puis les États-Unis en 1917 sont entrés en guerre, et ça a été le début de leur primauté, enfin l'amorce de leur décollage, si l'on peut dire, à l'échelle planétaire. Le monde n'est plus du tout le même après la Première Guerre.
Il y a un avant et un après. En effet, le monde de l'entre-deux-guerres qui va donner naissance au fond à la Deuxième Guerre est le résultat donc de ces traités de paix de 1918-1919 qui étaient mal conçus. Donc la Seconde Guerre est née de la Grande Guerre. Les deux grands totalitarismes, le communisme et le nazisme, au fond, sont aussi des fruits indirects de la Grande Guerre. On peut dire que le 14-18, c'est la matrice du monde moderne.
On peut dire aussi, et j'en ai fait une émission qui sera diffusée mercredi prochain, j'en profite pour y souligner, vous y participez d'ailleurs, Jean Sevilla, au milieu d'un grand nombre d'intervenants et d'analystes historiques, une émission consacrée au rôle de Clémenceau dans cette Première Guerre mondiale. On présente toujours, évidemment, et aujourd'hui encore, Clémenceau, comme tous les 11 novembre, est à l'honneur. On le présente comme une sorte de héros national. Il est le père, la victoire, et c'est incontestable qu'il est bien celui qui aura conduit le pays et derrière lui un certain nombre d'alliés à la victoire. Mais Clémenceau a surtout été un homme belliciste, un homme qui s'est opposé à la paix. Il s'y est opposé dès 1913. Il a fait régner pendant tout le début de la guerre une sorte de climat psychologique terrible. Il était président de la commission des armées, il ne faut pas l'oublier. Il a empêché l'aboutissement des initiatives de paix en 1916 et 1917, ce qui fait que, à cause de Clémenceau, ai-je envie de dire, la guerre a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et puis après, jusqu'à la fin, il pousse à la guerre à outrance. En 1919, au moment des négociations du traité de paix de Versailles, il est dans le camp des revanchistes extrêmes et il va abaisser, humilier l'Allemagne avec les conséquences que l'on sait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on constate que 5 jours seulement avant la signature du traité de Versailles, il est prêt à reprendre la guerre et il renvoie le maréchal Foch dans son état-major en disant « Eh bien, puisque les Anglais veulent s'entendre avec les Allemands, on va reprendre la guerre ». On peut dire que Clémenceau s'est battu contre la paix dans cette affaire.
Oui, je partage tout à fait votre analyse. Je pense que Clémenceau, grande figure nationale française, est un homme qui a su faire la guerre, mais il n'a pas su faire la paix. Il ne voulait pas la paix. Je pense qu'il porte une responsabilité indirecte dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, parce que le mauvais ordre international qu'on a instauré après les traités de la Première Guerre mondiale, en fait, ont créé un déséquilibre au centre de l'Europe. Que nous avons payé ensuite.
Il reste encore beaucoup de travail. Je lis quelques mails qui nous arrivent. C'est une émission qui fait réagir, évidemment. Claude nous demande si tout, je dis bien, je le cite, hein, tous les généraux et membres d'état-major ne devraient pas être traduits devant un conseil international pour crimes de guerre. Ça, c'est toute l'image qu'on peut avoir des états-majors composés littéralement de tueurs et d'irresponsables. Ces états-majors.
C'est une vision injuste.
Oui, c'est une vision sans doute très injuste, mais c'est celle évidemment de Stanley Kubrick. Et puis, Patrick nous demande, et les marchands d'armes, là, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Jean Sevilla, historiquement incorrect, c'est publié chez Fayard. C'est une lecture passionnante. C'est une très belle lecture pour un week-end prolongé. Merci Jean Sevilla d'avoir été des nôtres. Et puis je vous donne donc rendez-vous, bien sûr, sur Europe 1, mais aussi sur France 3, mercredi prochain, ce sera le 16, pour cette émission sur France 3 à 23h à propos de Clémenceau et de la guerre.